Radio Django. Culture.
Ce soir, Anna Maria, c'est le troisième et dernier volet de cette série des raisons d'espérer.
Oui, et pour clore cette mini-série en beauté et en douceur, j'ai rencontré Jérémy Kiesling, le plus parisien des chanteurs lausannois. Ce matin-là, il faisait froid et gris sur Paris, mais j'ai rencontré un jeune papa joyeux et apaisé. J'aurais pu nommer ce sujet Jérémy Kiesling ou quand le succès n'a plus d'importance. Rencontrer Jérémy Kiesling, c'est prendre le temps, chercher le bon mot, hésiter. C'est parler de lui, mais c'est surtout s'intéresser à l'autre, c'est poser sur le monde un regard lucide et tendre à la fois. Alors avec lui, nous avons parlé création, succès, lâcher prise, plaisir, valeur, argent, mais aussi attentat et trajectoire de vie. Grisha, son petit bonhomme, était des nôtres et s'est occupé de l'animation. On les écoute.
N'attendez rien de moi, je ne sais pas quoi faire. Si je parle tout bas, c'est que je voudrais me taire. Mes mots ne marchent pas, mes gestes ne touchent pas. Je souffle du vide dans l'air.
Après tant d'années, je t'ai souvent entendu dire j'ai toujours pas le tube qui fait qu'aujourd'hui je cartonne. Comment on tient sur la durée? Comment on garde espoir avec un succès qui vient et qui va, qui arrive et qui repart? Et puis on se dit là c'est bon, puis non, c'est toujours pas bon.
Je pense que la question du succès, au bout d'un moment, elle se pose plus tellement. Soit tu es passionné de musique et ce que tu aimes faire dans la vie, c'est écrire des chansons et du coup tu continues. Soit si tu as fait ça pour le succès et pour l'argent, ben t'arrêtes très vite, ce que j'aurais fait déjà, je sais pas, au bout de 5-6 ans, au début. Enfin, ça marchait bien, mais le truc aussi, c'est que ça marche pour très peu de gens actuellement. Vu que le marché du disque a complètement changé. Donc il y a même des énormes chanteurs comme Benabar qui ont plus envie non plus de faire ce métier parce que ça devient ridicule, les ventes. Après il y a le streaming, Spotify, etc. Qui a pris vraiment le dessus de l'écoute sur les gens, ou YouTube. Mais ça rémunère pas du tout non plus. Donc moi ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté de me poser la question de pourquoi je le fais, parce que c'est le seul truc que j'aime faire et que je fais bien, et du coup je le fais, et puis j'ai plus de plaisir à le faire maintenant que je me pose pas la question du succès qu'à l'époque. Mais bien sûr que je préférerais un monde où la culture est plus, notamment la musique, est plus valorisée et plus rémunérée, parce que ça serait beaucoup plus... Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils ont l'impression d'écouter de la meilleure musique depuis Internet, parce qu'ils ont l'impression de pouvoir écouter tout ce qu'ils veulent. Sauf que tous les artistes et même les maisons disques le savent très bien. Ils savent très bien que vu qu'il y a beaucoup moins de revenus pour tout le monde, et ben ils ont arrêté le développement d'artistes. C'est-à-dire maintenant, ils prennent des choses qui peuvent marcher très vite et ils sont sûrs que ça passe à la radio. Donc forcément des choses souvent un peu moins qualitatives. Mais tous les artistes qui étaient consignés en développement parce qu'on disait ils ont une écriture, on y croit, il va rencontrer son public, il y en a énormément qui peuvent même plus signer ou même plus sortir un disque. Ça devient très rare. Donc on a perdu toute cette partie de musique qui était la musique peut-être un peu plus... Un peu plus poétique, un peu plus contemplative, un peu plus mélomane. Il y a Kali, j'ai entendu un interview super intéressant de Kali dernièrement, qui parlait de Spotify, etc. Et du coup, du streaming, des ventes de disques. Et lui disait qu'un Alain Souchon, aujourd'hui, il n'aurait même pas eu de carrière parce que juste, on ne saurait pas passer tout de suite à la radio. On ne saurait même pas passer du tout à la radio. Et que du coup, les maisons disques auraient laissé tomber en 3 semaines. Et que, et que sa carrière se serait arrêtée là. Donc c'est vers ça vers quoi on va un petit peu. Par contre, je trouve que... Enfin là, ça fait un peu 20 ans que c'est comme ça, ou un peu entre 15 et 20 ans. Et moi, je pense toujours qu'il y a, vraiment des modes. Toutes les 20 ans, les modes changent, les manières de fonctionner, le monde en général. Et je sais qu'on va retrouver une manière de faire de la musique plus intelligente et plus intéressante pour les gens et pour les artistes. Mais voilà, le modèle n'est pas encore trouvé. Mais moi, je suis pas défaitiste au point de dire que ça va être tout le temps comme ça. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est pour ça aussi qu'il faut s'accrocher, il faut continuer, il faut avoir du plaisir à puis se diversifier. J'écris aussi pour. Je sais pas, je fais plein de choses. J'écris pour d'autres, j'écris des livres. Moi, tant que je reste dans ce domaine artistique et que je peux m'exprimer et continuer à faire ça, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir le faire. Et du coup, ça me suffit pour l'instant.
Mais je me trompe ou il y a quelque chose de moins nostalgique ou moins désespéré ou...
Dans quoi?
Dans votre énergie, dans votre.
Bah après, quand t'es un enfant, déjà. Enfin, quand t'es heureux dans la vie, et puis que t'es heureux en famille, en couple et tout, ça enlève déjà énormément de poids sur la vie en général.
Ouais, parce que moi, je vous entendais parler quand il y a eu Malhabile, quand il y avait ce discours, disait voilà, je l'ai fait ce disque avec l'énergie du désespoir. Ou...
Ouais, parce qu'à chaque fois, c'est énormément de. À chaque album. C'est aussi pour ça que je fais un album. Je fais pas des albums toutes les années et que. Je fais plutôt tous les 3-4 ans parce que ça demande énormément de... Ça prend énormément d'énergie, on met beaucoup de choses dedans. On met toute sa personnalité, effectivement, ses espoirs et tout. Et donc ça, on passe par des vagues un peu très up and down comme ça. Et bien sûr que l'énergie du désespoir, je sais pas, c'était peut-être un terme assez fort, mais... bien sûr que quand on sort quelque chose, vu qu'on a mis toute sa vie dedans, bien sûr qu'on y croit puis qu'on y est très attaché. Donc c'est aussi pour ça que ça fait aussi plus mal quand ça marche un peu moins bien, etc. Mais franchement, je me plains pas en ce moment. Les choses vont plutôt bien. Je suis très créatif. Je fais plein de choses.
J'ai pas de cran, je suis mal habile. Devant l'écran, je reste immobile. À quoi je sers si j'ai trop peur, si je me perds? Et dans la torpeur des villes, parmi les dormeurs fébriles.
Comment on vit avec cette sensibilité-là dans une ville comme Paris, quand on est né à la campagne, quand on est né dans la campagne vaudoise? Il y a ce fort besoin d'humanisme, vous en parlez de temps en temps, l'humanisme à la Brassens qui vous touche. Comment on vit cette transition? Comment vous faites pour tenir ici?
Je pense qu'il y a deux choses. Déjà on s'habitue à beaucoup de choses. Moi, je vais prendre ce que j'aime. Si je suis dans un endroit, je vais essayer de garder ce que ça m'apporte et ce que j'aime dans cet endroit. Mais surtout, je pense que c'est un peu, on se fait une mauvaise idée de ce qu'est la campagne et ce qu'est la ville. Moi, j'ai grandi dans un petit village que j'adorais pour certains côtés, mais qui était aussi détestable pour d'autres. Non, c'est pas parce que le village est petit et qu'il y a plus de nature que les gens sont plus sympas ou plus intelligents. Il y a aussi énormément d'histoires un peu tristes, de disputes familiales, d'aigreurs. Il y a aucune raison que je trouve moins d'humanisme à Paris que dans un petit village. Et au contraire, moi ce que j'aime, c'est... J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'être en contact avec les gens. Je pourrais pas être isolé dans une petite montagne avec des chèvres et puis trouver l'inspiration. Moi, j'ai envie de parler des gens, des émotions des gens. Si les gens vivent des choses difficiles, comme à Paris ces dernières années, ben je suis content d'être là et puis d'arriver à le traduire en émotions. Je trouve que c'est aussi ça le rôle d'un artiste, c'est pas de s'isoler du monde et puis de... L'artiste, il regarde déjà un peu en général. Que ce soit un peintre, un cinéaste, un écrivain, il regarde déjà un peu le... Il met déjà une certaine... Le fait d'écrire sur quelque chose, on met déjà une certaine distance. Mais il faut pas que cette distance soit trop grande, sinon on perd sa sensibilité, on commence à... En tout cas, voilà. Pour moi, pour ce que j'ai envie de faire, je suis bien ici. Ouais. Et je trouve que la ville est de plus en plus humaine depuis les attentats, d'ailleurs. Je trouve que ça a changé les gens et ça fait plaisir. Il y a plus de communication, un peu plus de chaleur humaine, je trouve. Et ça c'était c'est un beau cadeau que... Malgré l'horreur qui est arrivée, c'est un beau cadeau qui nous ont fait. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? Lui, il mange des bouts de pain, il est content, mais il fait pas beaucoup. Comme un petit canard. Ça a toujours été toute ma vie, la musique. On fait pas ça comme on fait un plan de carrière, on se dit voilà, je vais monter telle boîte ou je vais créer telle structure pour arriver voilà, dans 5 ans j'aurai ce salaire, dans 10 ans j'aurai ce salaire et puis dans 15 je serai millionnaire. C'est très éloigné de la mode de vie suisse qui est extrêmement basée sur la réussite sociale, le gros salaire et tout. Quand tu fais quand tu fais un métier artistique, tu penses juste, ton but ultime, c'est de créer la plus belle œuvre possible et qu'à la fin de ta carrière, tu sois fier. Et c'est pour ça que je continue, c'est ce qui m'intéresse. Et tant que moi, je suis hyper fier que mes chansons passent à la radio et qu'elles puissent toucher les gens qui ont envie de les écouter.
J'ai réécouté le concert de Paléo et je vous ai senti plus à l'aise sur scène. Je me trompe ou il me semble qu'il y a une aisance, il y a quelque
ouais,
chose.
Ouais, alors après c'est comme tout, un peu on vieillit, donc on n'est plus on vieillit, on est ouais, on, en tout cas on est plus mature et du coup non, moi j'adore la scène, ma voix aussi. Tu gagnes confiance en ta voix et puis après. Ça va avec tout, tu te poses moins de questions, tu projettes moins et tu profites juste du moment présent. Mais j'ai toujours adoré la scène, mais j'ai mis les premières années, j'étais très, effectivement, très dans un rôle ultra timide et tout. Et j'étais du coup un peu en opposition avec Raphaël, mon pianiste, qui lui jouait vraiment le clown très, très fantasque. Et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé aussi à faire beaucoup de concerts solo, j'adore ça. Rester 2 heures devant un public plus intime, mais où t'as vraiment le temps d'instaurer ton univers à toi, puis t'as vraiment un espace de liberté qui est total, surtout quand en plus t'as pas de musiciens autour. Mais en général, ouais, j'ai toujours adoré ça, mais en plus maintenant j'ai juste le... L'expérience est nécessaire pour que je sois à chaque fois content de comment ça se passe et de profiter et tout, c'est vraiment cool. Et ça aussi, c'est peut-être effectivement le... Ouais, c'est une espèce de lâcher prise aussi sur les événements. Tu travailles beaucoup pour un album, pour une scène, et puis une fois que c'est là, tu dois juste profiter. Et puis, parce qu'un concert ou je sais pas... Le temps passe vite, les concerts passent vite, et t'es pas... Si tu profites pas un maximum, t'es un peu passé à côté. Aussi, avec l'âge un peu, quand t'es jeune, t'es vraiment complètement concentré sur... En plus, moi j'étais limite un peu autiste et tout, t'es jusqu'à 25-30 ans, t'es extrêmement concentré sur toi. Du coup, sur ta carrière, sur tes chansons, c'est difficile de s'ouvrir. Et du coup, t'es aussi plus blessé quand les choses se passent ou se passent pas comme tu voudrais. Et puis, je sais pas, entre 30 et 40 ans, je trouve que tu apprends à t'ouvrir un peu sur le monde et du coup aussi à diversifier, mais à regarder aussi toutes les trajectoires de vie. C'est quand même assez rare les gens qui passent une vie entière sans avoir des moments, des coups durs, je sais pas si ça existe d'ailleurs. Et ce qui change la vie, c'est de garder le cap, garder de savoir où sont ses valeurs. Ça c'est le plus important, je trouve. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Est-ce que ça va être le plaisir, la famille, les amis, ou l'argent et la carrière? Chacun fait son choix, mais déjà ce choix-là, il est pas si évident pour beaucoup de gens. Il y a énormément de gens. C'est pour ça que je parlais de la Suisse avant. La Suisse, c'est un métier où c'est très dur de se rappeler que de prendre du temps pour sa famille et ses amis. C'est important aussi parce que l'argent vient très vite et du coup on monte très vite dans la hiérarchie. On est dans des de plus en plus grosses boîtes qui te mettent plus de pression à bosser plus, mais parce que si tu bosses plus là, tu vas arriver là et tout. Ah ouais, cool, j'ai genre 2000 de plus par mois dans ton année. Et c'est des calculs totalement différents de beaucoup de pays où il n'y a pas d'argent et puis où tu dis bon, même en France d'ailleurs, les salaires sont tellement moindres que t'as l'impression que les gens se tuent pas forcément au travail. Ils savent aussi que voilà, ils font le travail d'un côté, puis de l'autre, ben il y a le plaisir. Donc ça, déjà, je trouve que ça change un peu quand tu peux te regarder en face et dire ok, ben au moins, enfin, j'ai gardé ces valeurs là. Je suis heureux en relation, en amitié et tout. Ça te tient un fil un peu qui te relie au monde et qui te relie aux gens, qui est très important. Tu parlais du côté humain avant. C'est aussi ça qui fait que le monde aurait aucune valeur s'il n'y avait aucun fil, aucun lien entre les gens. Parce que pourquoi on serait autant et aussi différents sur un si petit espace, surtout en ce moment, s'il n'y avait pas des trucs incroyables à créer, des choses à tisser entre les humains, un peu de n'importe quel horizon. Donc c'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça aussi que je suis content d'être dans une ville comme ça, où il y a tellement de jours différents et de choses qui se passent. Je sais pas si je vais rester encore 25 ans ici, mais il y a des belles choses à faire un peu partout. C'est juste de faire ce métier, c'est déjà de continuer à le faire, c'est déjà beau. Après, je pense que sur le monde en général, sur comment il est maintenant, il y a deux manières de le voir. Soit on dit bah tout est noir, le climat ça va pas, les attentats, les guerres, l'extrême droite et tout. Soit on se dit ça, puis on se dit bon, et puis on devient cynique, puis on fait plus rien. Soit tu vois l'autre moitié. Ça a toujours été 50-50, 50% d'ombre et 50% de lumière, et ça changera jamais. Donc c'est vers quoi, qu'est-ce qu'on veut regarder, qu'est-ce qui nous intéresse. Il y a autant de gens, voire certainement beaucoup plus de gens avec un cœur magnifique et qui font des choses magnifiques que des gens qui... Par contre, les gens qui font les gens qui sont dans la violence, dans la haine, etc. Bien sûr qu'ils sont ils sont moins nombreux, je pense, mais on les voit beaucoup plus, forcément. Pour un attentat à Paris, t'as aussi des millions de des gens qui s'engagent pour les autres, qui s'engagent pour les pauvres, qui s'engagent pour les enfants en Afrique. Il ne faut jamais renoncer à l'espoir de comment l'humanité aussi grandit, quelle idée elle va trouver aussi, je ne sais pas, pour le climat, pour la paix, j'en sais rien. Bien sûr que tu dis que ce n'est pas facile quand il y a des... quand il y a Donald Trump et Poutine et d'autres et tout. Mais voilà, les choses changent et puis changent. Ouais. Entre déjà le moment où j'étais petit, où j'étais enfant, et maintenant, tu vois déjà qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, je sais pas, il y a plus de gens qui méditent, par exemple. Ça, je trouve ça magnifique. À l'époque, tout le monde rigolait quand tu parlais de méditation. Maintenant, presque tout le monde en fait. Enfin, presque tout le monde, non, mais ça devient... C'est basique alors que c'est un truc totalement... c'est presque... Il y a un côté effectivement spirituel ou en tout cas un peu irrationnel là-dedans, mais c'est entré dans le... Les gens se rendent compte assez vite qu'il y a quelque chose qui marche, qui fait du bien, qui relie les gens, etc.
Qu'est-ce qu'il est charmant. Tu veux dire au revoir aux auditeurs ?
Est-ce que j'ai Privet? Privet. Pas qu'un.
Oh, j'ai pas de cran, je suis mal habile. Devant l'écran, je reste immobile. À quoi je sers si j'ai trop peur, si je me perds? Et dans la torpeur des villes, parmi les dormeurs fébriles, je rêve éphémère à la sueur des réverbères. On ne sait faire que danser, danser, ne penser à rien. On voulait de l'air et du temps, oui mais tant pis, on attendra demain. On ne sait faire que chanter, chanter, se tendre la main. J'ai courbé le cœur et les chines. J'ai pris la couleur des machines. Je ne me repère qu'à la lueur des faits divers. On n'a pas envie de grand chose, juste un peu de vent dans les roses. Alors on se cherche un peu ailleurs dans l'univers. On ne sait faire que danser, danser, ne penser à rien. De l'air et de temps, oui mais tant pis, on attendra demain. On ne sait faire que chanter, chanter, s'étendre la main.
On ne sait faire que danser, c'est signé Jérémy Kissling, une chanson de 2016 pour donner finalement un air d'espoir et une belle conclusion à cet entretien. Merci beaucoup Anna-Maria.
Mais je vous en prie Fabien.
Et une suite est prévue pour ces entretiens?
Oui, on en parlera en janvier.
Et bien voilà, j'espère qu'on n'attendra pas Noël prochain, mais oui absolument. Merci beaucoup Anna-Maria, bonne fête à toi.
À toi.